Atlantique, grandir ensemble.
Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans l'actualité, l'armée israélienne annonce avoir lancé de nouvelles opérations terrestres au Liban. Son offensive contre le Hezbollah s'est élargie au sud-ouest du pays. En France, le gouvernement de Michel Barnier est visé par une première motion de censure. Elle sera défendue par la gauche cet après-midi à l'Assemblée avec très peu de chances d'être adoptée. Le Rassemblement national ne la soutenant pas. Au sommaire également, le point sur les hostilités entre la Russie et l'Ukraine. Les deux camps revendiquent des avancées. Nouvelle libération de détenus en RDC pour désengorger les prisons. Et à l'approche de la présidentielle américaine, un nouveau film met en scène les jeunes années de Donald Trump. Mais tout de suite et pour commencer, direction l'Argentine, où un an après le début de la guerre Israël-Hamas, deux rassemblements avaient lieu hier soir. Le premier en soutien au peuple palestinien sur la célèbre place de Mai à Buenos Aires. Le second, toujours dans la capitale, a rassemblé des membres de la communauté juive. C'est la plus importante d'Amérique latine. Les participants ont rendu hommage aux victimes des attaques du Hamas et réclamé le retour de tous les otages. Reportage de notre correspondant Théo Conscience.
Israël.
Au milieu de la foule compacte rassemblée dans la rue État d'Israël à Buenos Aires, Dario prie avec son rabbin Yoel.
C'est une prière que les hommes juifs font tous les jours et que nous faisons aujourd'hui en particulier pour que notre souvenir du 7 octobre ne reste pas dans le silence.
Comme Yoel et Dario, ils sont plusieurs milliers à être venus rendre hommage aux victimes du 7 octobre. La communauté juive d'Argentine, la plus importante d'Amérique latine avec quelque 300 000 personnes, garde aussi le souvenir douloureux des deux attentats qui ont fait 114 morts à Buenos Aires dans les années 90.
Nous ne pouvons pas permettre que des choses comme ça continuent de se produire. Venir ici, être présent ce soir est fondamental pour soutenir Israël et pour dire plus jamais.
Ariel, un drapeau d'Israël sur les épaules, se félicite du soutien sans condition apporté à l'État hébreu par Javier Milei. Le président argentin a déclaré le Hamas comme organisation terroriste mi-juillet et indiqué sa volonté de transférer l'ambassade de son pays à Jérusalem. Une sirène retentit dans les haut-parleurs et la cérémonie commence. Des proches des sept Argentins toujours retenus en otage par le Hamas montent sur la scène et allument des bougies pendant que la foule observe religieusement une minute de silence. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Je vous le disais pour commencer, l'armée israélienne annonce avoir lancé de nouvelles opérations terrestres au Liban. Son offensive contre le Hezbollah s'est élargie au sud-ouest du pays. Elle a par ailleurs frappé dans la nuit la banlieue sud de Beyrouth et annoncé avoir tué un chef du Hezbollah, un homme Hussein Husseini, chargé du budget et de la logistique du groupe chiite. Et maintenant, la guerre Russie-Ukraine avec parmi les nouveaux développements les dernières avancées des troupes russes. Moscou a revendiqué la prise d'un village situé à une dizaine de kilomètres de Pokrovsk, le carrefour logistique lui-même menacé d'occupation si les lignes de défense ukrainiennes venaient à céder. Mais si l'armée de Kiev est à la peine dans cette région, elle enregistre aussi des succès. Elle affirme avoir détruit des raffineries et des dépôts de munitions en Russie et en territoire occupé. Le point avec notre correspondant en Ukraine, Emmanuel Chaz.
Ces derniers jours, les gains territoriaux russes dans l'est de l'Ukraine, notamment la prise de Vourledar, plateforme stratégique pour Kiev à 50 kilomètres au sud de Pokrovsk, ainsi que d'autres gains plus au sud, illustrent les avancées minimes mais continues des troupes russes et toute la difficulté pour l'armée ukrainienne de repousser son agresseur en avantage numérique, notamment sur la ligne de front est. Mais le champ de bataille n'est pas limité à l'est du pays. Kiev multiplie non seulement les opérations terrestres sur le sol russe, comme dans la région de Koursk où l'Ukraine revendique toujours le contrôle d'une centaine de communes, mais aussi les frappes en profondeur sur des dépôts de munitions, des raffineries et des bases aériennes en Russie, ainsi que des opérations en territoire occupé. Dans la nuit de dimanche à lundi, Kiev a revendiqué la frappe du plus gros terminal pétrolier de Crimée dans le port de Féodossia qui approvisionne l'armée russe. Depuis le début de l'année, l'Ukraine a multiplié ce genre d'opérations avec ses propres armes en territoire russe et avec des missiles de longue portée en territoire occupé. Kiev espère ainsi perturber l'approvisionnement et la logistique des troupes russes qui occupent illégalement près d'un quart du pays. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Également dans l'actualité, des nouvelles libérations de prisonniers en République démocratique du Congo. 270 détenus de la prison de Kasapa à Lubumbashi ont bénéficié hier de la libération conditionnelle. Le ministre congolais de la Justice explique qu'il convient de désengorger les prisons du pays. Cette prison de Kasapa compte près de 2800 détenus, alors qu'au moment de sa construction, à l'époque coloniale, elle avait été prévue pour seulement 680 pensionnaires. Correspondance à Lubumbashi de Denise Mayo.
Sami Kapanga vient de passer 3 ans dans la prison centrale de Kasapa à Lubumbashi sans avoir été jugé. Il fait partie de 40 détenus malades qui ont tous bénéficié d'une libération ce lundi 7 octobre. D'une voix tremblante, Sami revient sur les circonstances de son arrestation.
J'ai été arrêté en train de me promener sans avoir des identités. On m'a demandé 300 dollars pour que je puisse payer là-bas au cachot. Je n'avais pas. Alors, on m'a jeté ici jusqu'à aujourd'hui.
230 autres prisonniers ont aussi été libérés. Certains étaient détenus pour des faits bénins. D'autres avaient déjà purgé plus de la moitié de leur peine. Son billet de sortie en main, Moïse Ngandou, un conducteur, ne s'y attendait pas.
On m'avait condamné à 2 années de prison car j'avais percuté et blessé 2 personnes. Puis on a rajouté 1 année. Là, il me restait 9 mois. Je remercie le bon Dieu. On ne pouvait pas imaginer que le ministre vienne en personne pour notre libération.
Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a demandé aux responsables des parquets civils et militaires d'effectuer régulièrement des visites dans les prisons afin d'assurer le suivi des dossiers des détenus. Denise Mayo, Lubumbashi, RFI.
En France, le gouvernement de Michel Barnier est visé par une première motion de censure déposée par la gauche pour le non-respect du résultat des élections législatives. Elle sera présentée et débattue cet après-midi à l'Assemblée nationale avec très peu de chances d'être adoptée. Le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, ayant fait savoir qu'il ne la voterait pas. Jean-Marie Le Pen, lui, doit de l'argent au Parlement européen. 300 000 euros, c'est la somme réclamée au fondateur du Front National et ancien député européen pour des dépenses jugées indu. Jean-Marie Le Pen a été député européen entre 1984 et 2019 et les frais réclamés par le Parlement s'étalent sur plus de 10 ans. Les précisions de Pierre Benazé.
Entre 2009 et 2018, Jean-Marie Le Pen aurait dépensé 303 200 euros et 99 centimes de manière injustifiée. Le Parlement européen lui reproche d'avoir utilisé indûment une ligne comptable qui est destinée à couvrir des dépenses administratives et des frais de fonctionnement pour les groupes politiques ou les députés qui font partie d'aucun groupe et doit couvrir les activités politiques et les activités d'information et de publication. Le service de lutte antifraude de l'UE, Olaf, avait fait un rapport au Parlement européen il y a 2 ans. Il y a bien les activités d'information et de publication, mais en fait, on y trouve essentiellement des bulletins d'information, décrits par l'OLAF comme du copier-coller surfacturé de textes en accès libre. C'est a priori là, du fait des honoraires, que se concentre le gros des dépenses, mais le rapport de l'OLAF établit aussi une véritable liste à la Prévert. Elle mélange des frais de représentation et de fonctionnement, stylos, cartes de visite et horloges de bureau, mais aussi cravates, bracelets connectés, lunettes de réalité virtuelle, ou encore 129 bouteilles de vin et des balances de cuisine. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Allez, une page cinéma à présent avec un film qui sort demain en France après avoir fait sensation au dernier festival de Cannes, The Apprentice du réalisateur dano-iranien Ali Abbasi. Il met en scène les jeunes années de Donald Trump et le film sort à quelques semaines de la présidentielle américaine. Elisabeth Le Quéré.
Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohen. Thank you.
Biopic sans concession, cinglant et formidablement interprété, le film d'Ali Abbasi retrace les années d'apprentissage en cynisme du futur président des États-Unis. On est à l'orée des années 80, Donald Trump barbote encore dans l'ombre de son paternel, quand un avocat redouté, Roy Cohn, le prend sous son aile et lui apprend ce qui sera plus tard sa marque de fabrique, attaquer, mentir, toujours nier, et quoi qu'il arrive, clamer haut et fort sa victoire. The Apprentice accroche le spectateur avec son rythme effréné, ses répliques acérées qui rappellent la série Succession, et son acteur génial, Sebastian Stan, dont le teint de plus en plus orangé et les transformations capillaires font peu à peu apparaître à l'écran le Donald Trump contemporain. The Apprentice, allusion bien sûr à l'émission de télé-réalité qui a fait de Trump un personnage public, est un film efficace qui ne cède pas à la fascination, même si on sent le plaisir d'Ali Abbasi à filmer l'univers des super-riches.
The Apprentice, film à voir sur grand écran en France à partir de demain mercredi. Un tout dernier mot de la bourse, ouverture en baisse ce matin, plus de 1% de recul à la Bourse de Paris. Bonne journée sur RFI, tout de suite Priorité Santé.